Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Patience Ngalula. Nouvelle attaque hier d'une embarcation sur la rivière Congo par des miliciens Mobondo dans le territoire des Kenge. La société civile du Congo déplore les non-respects du deuxième accord de paix signé entre les gouvernements et les leaders de la dite milice. Des dizaines de millions de dollars américains de deniers publics détournés entre juillet et septembre de cette année. Ceci ressort du rapport trimestriel des détournements des fonds publié par la coalition « Le Congo n'est pas à vendre à Kinshasa ». L'invité de ce journal est le coordonnateur intérimaire du Fonds des réparations des indemnisations des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC. Chansar Bolukolal annonce l'intensification des activités du Frivao dans d'autres provinces de la Grande Orientale. Bonjour à toutes et à tous. Ce journal part du Congo où une nouvelle attaque des miliciens Mobondo est signalée à Kenge. Nous avions cru qu'après la signature du deuxième accord de paix entre les gouvernements représentés par le VPM de l'intérieur et les leaders de la milice Mobondo, la situation sécuritaire allait s'améliorer dans le Congo, Kwilu et Maïndombe. Contre toute attente, nous observons que la situation n'a pas changé. Donc, avant l'accord est égal à après l'accord. Ces propos sont du vice-président du cadre des concertations provinciales de la société civile du Congo après attaque jeudi d'une embarcation par le milicien Mobondo sur la rivière Congo en territoire des Kenge. Symphorien Kwengo dénonce aussi tant d'autres exactions des miliciens sur l'axe des Lonzo-Kingala. Il invite les gouvernements à régler définitivement cette crise avec les vrais acteurs. Symphorien Kwengo est joint par Irène Mbomaluzolo.
Les attaques récurrentes de la milice Mobondo le long de la rivière Kwango, il y a une embarcation qui a été attaqué. Il y a des exactions aussi du côté de l'axe routier Missiolonzo, Kingala, où les gens sont pris en otage, ils sont portés disparus. Il y a les sécurités, les commerçants ne peuvent plus passer par là, les prix des produits manufacturés ont galopé, les prix des produits alimentaires ont également galopé parce que les paysans ont peur d'aller en forêt. Et nous croyons que le gouvernement doit négocier, oui, mais avec qui ? Est-ce que ceux qui négocient avec le gouvernement, ce sont ceux-là qui sont véritablement les vrais instigateurs de l'insécurité orchestrée par les miliciens Mobondo ? C'est la question que l'on se pose. On ne peut pas comprendre que pour la deuxième fois, les accords sont signés, mais ces accords ne sont pas respectés. C'est là que nous recommandons au gouvernement de négocier avec les vrais instigateurs de l'insécurité orchestrée par les miliciens Mobondo pour que la paix soit rétablie.
Entre-temps, au Nord Kivu, des bandits armés ont sémé la panique dans plusieurs quartiers de la commune de Karisimbi, en ville de Goma. Des coups de feu ont été entendus durant une bonne partie de la nuit d'hier à ce vendredi. Les habitants ont recouru à toutes les formes d'alerte pour dissuader les malfrats qui tentaient de faire du porte-à-porte pour cambrioler. Ce matin, on parle de 3 personnes retrouvées mortes et d'un blessé par balle admis pour de soins. Chris Mukand.
Le blessé qui a été reçu à l'hôpital Sebekandocho est un enfant qui a été atteint par une balle tirée par des bandits qui se sont introduits dans la maison familiale. Après avoir pris tous les biens de valeur, les bandits ont tiré sur les occupants, tuant sur le coup les deux parents. Cela s'est passé sur l'avenue Seyavu au quartier Mugunga. Sur l'avenue Mouchebere, un corps sans vie d'une dame a été découvert par les passants. L'identité de la victime reste inconnue, de même les circonstances de son décès. Le compte donne 3 morts et un blessé à d'une seule et même nuit pour le quartier Mugunga. Divers autres quartiers de la commune de Karisimbi ont fait l'objet de plusieurs tentatives d'incursion des malfrats dans les maisons des particuliers, ce qui explique ces coups de feu entendus presque toute la nuit dans la majeure partie de la commune de Karisimbi. Les actes de banditisme se sont multipliés cette semaine dans la commune de Karisimbi. Mardi, un jeune homme présenté comme changeur de monnaie a été abattu par des inconnus armés alors qu'il descendait d'un taxi dans la soirée. Le mercredi, c'est un conducteur des mototaxis qui a été criblé de balles par des bandits déguisés en passagers. La société civile de Karisimbi, qui rapporte ces faits, déplore cette montée de criminalité en ces débuts de fin d'année et en appelle à des mesures idoines de la part de l'autorité. Goma, Chris Mukand, Radio Kapi.
Et aussi, au sud Kivu, la panique s'est emparée de la population de Kavumu hier soir lorsque des bandits non autrement identifiés ont tiré à bout portant sur un habitant de la place à moins de 1 km de l'aéroport de Kavumu dans le territoire de Kabare à 25 km au nord de Bukavu. Les assaillants se sont volatilisés après leur forfait, laissant la victime gisant dans le sang. La société civile de Bougoré déplore la multitude des soldats incontrôlés dans la région. Justin Moulemangabo sollicite à la hiérarchie militaire et policière de bien identifier les hommes en uniforme déployés officiellement dans la région. On l'écoute au micro de Jean Kassami.
Demandons aux services de sécurité, surtout à l'armée, d'identifier les éléments que nous avons à Kavumu parce que désormais, les militaires que nous avons, nous ne les connaissons presque pas parce qu'ils circulent sans contrôle et voici qu'on venait d'être endeuillés par des éléments incontrôlés. Nous avons besoin de la sécurité à Kavumu et nous avons besoin de vivre la quiétude. C'est pourquoi les autorités militaires doivent rétablir de l'ordre au sein des éléments de l'armée comme de la police et contrôler la circulation et le port des armes. Nous condamnons avec la dernière énergie l'insécurité qui refait surface au centre commercial de Kavumu où aux environs de 19h30, on venait de perdre Baba Dieu Merci, communément appelé Kabwana, qui venait d'être tué par des inciviques armés non identifiés.
Dans le territoire de Beni, au nord Kivu, un déplacement des populations a été signalé dans la nuit de jeudi à vendredi à Kantine, une localité du groupement des Baswamadiwe à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Beni. À l'origine, les passages dans la région des hommes armés assimilés aux rebelles des EDF. Le conseil local de la jeunesse appelle la population au calme. Marc Marofimbo pour les détails.
Le premier mouvement de ces hommes armés a été observé aux environs de 23 heures, heure locale, sur l'axe Kantine Mabala Komalese, précise le président du conseil local de la jeunesse de Kantine. La population a cru à une incursion des rebelles des ADF et a commencé à fuir dans toutes les directions. Ensuite, un autre mouvement de ces hommes armés a été observé à Central et Kabweke, vers la partie ouest de Kantine. Une situation qui a provoqué le déplacement de la population vers des endroits jugés sécurisés. Alertés, les autorités locales et quelques jeunes se sont mobilisés pour s'imprégner de la situation. Après vérification, il s'agissait plutôt des jeunes résistants aux arènes armées qui se rendaient vers la partie ouest de cette entité, indique Tchétchi Aliamini, le président du conseil local de la jeunesse. Le calme est revenu ce matin dans la région où les habitants qui avaient fui la veille commençaient à regagner progressivement leurs habitations, indique notre source. Rappelons que depuis la dernière attaque des rebelles de l'ADF dans cette entité au mois d'avril dernier, la population vit toujours dans la psychose. Les conseillers locaux de la jeunesse demandent aux autorités de renforcer les mesures sécuritaires dans cette région afin de rassurer la population de sa sécurité. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
La coalition Congo n'est pas à vendre, SENPA va déplorer jeudi le détournement entre juillet et septembre dernier des fonds de l'État estimés à plusieurs dizaines de millions de dollars américains. L'un des coordonnateurs de cette structure, Jimmy Kande, a dévoilé ses rapports au cours d'un point de presse tenu à Kinshasa. Dans ses rapports dénommés Kanyaka Rouchoua, il a par exemple cité les cas du directeur général de l'Agence nationale des météorologies et des télédétections par satellite Telsat, reconnu coupable des fautes de gestion. La SENPAV a souhaité que les présumés coupables répondent de leurs actes devant la justice. Dimi Kande, au micro de Blaise Ndongala Mayanda.
De juillet à septembre, et on a constaté qu'il y avait encore beaucoup de cas de corruption qui restaient impunis. On a parlé du cas de Glencore qui a été condamné pour corruption alors que la justice congolaise tarde à ouvrir une enquête contre Glencore. On a parlé de l'argent qui a été détourné pour la construction de la prison alors que nous savons tous dans quelles conditions les prisonniers vivent. On a parlé de l'argent des victimes de la guerre de l'Ouganda qui avait été détourné. On a parlé également de la consultance de l'IGF qui a été décriée par la Cour de comptes. On a évoqué que nous avons également fait des recommandations qui vont du respect des règles de passation de marché, de la dépolitisation des nominations dans les entreprises publiques ou dans les établissements de l'enseignement supérieur. Nous avons également évoqué le cas de l'éthique pour les organes de contrôle afin que ces derniers ne puissent pas se retrouver redevables là où ils partent mener leur mission. Pour nous, nous encourageons les initiatives qui sont positives, peu importe d'où elles viennent, si elles viennent de l'IGF ou ils viennent d'autres organisations.
Vous le savez, le 31 octobre de chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale de l'épargne. À Bukavu, elle a été commémorée sous une double facette. Pendant que les institutions des microfinances sensibilisent la population à l'épargne, les victimes des coopératives et des banques tombées en faillite recherchent encore les voies et moyens de recouvrer leurs épargnes qui se sont volatilisées avec la chute de ces institutions. Un reportage terrain de Jean Kassami.
La Journée internationale de l'épargne a permis aux IMF, institutions de microfinance opérationnelles à Bukavu, de mener une campagne de sensibilisation de la population sur l'importance de l'épargne. Polydor Kaloume Agno, agent de crédit à l'institution de microfinance TGDSA.
Je peux confirmer avec certitude que c'est possible d'épargner dans les institutions de microfinance parce que, au préalable, il y a les investisseurs qui garantissent avec les capital minimal exigé par la Banque centrale.
Alphonsine Chimembe garde en elle une image négativiste de l'épargne depuis qu'elle est tombée victime d'une institution bancaire en faillite à Bukavu depuis plus d'une décennie.
La Copé-Kimara avait 12 000 membres et le montant escroqué est environ plus de 12 millions de dollars. Imaginez-vous. Avec un montant très exorbitant. Comment aujourd'hui on peut avoir le courage de revenir? On est dessus complètement des systèmes bancaires ici, chez nous. Rien n'est garanti, rien n'est protégé.
Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
À Bounia, par contre, la population développe de plus en plus la culture de l'épargne. Le nombre de clients ou des maisons d'épargne ne cesse de croître. Mais de nombreux habitants continuent à thésauriser leur argent, une pratique découragée par les banquiers et responsables des sociétés des microfinances. Reportage de Nelly Kataka.
De nombreux habitants à Bounia placent leur argent dans des institutions financières. Et pour des agents de l'État et même de certaines entreprises, avoir un compte est devenu obligatoire pour le paiement de leur salaire, ce qui contribue à la promotion de culture de l'épargne. Une femme que nous avons rencontrée en plein retrait explique les bienfaits de l'épargne formelle.
L'épargne m'aide à scolariser mes enfants. Je conseille aux mamans de garder leur argent à la banque, qu'importe leur revenu. Même avec 10 dollars, on peut épargner, créer un compte bloqué même pendant une année.
Selon le responsable de Mutuelle d'épargne et de crédit Bounia Mekrebou, au moins 60 nouveaux membres s'ajoutent chaque mois dans cette coopérative de crédit. Mais le défi reste énorme à relever car 60 milliards de dollars américains circulent hors circuit bancaire, indique-t-il. Emmanuel Mapirimoja décourage la population de garder l'argent à la maison et les encourage à le placer dans les circuits formels pour une bonne sécurité.
Dans les temps passés, il y a eu des opérateurs qui ont fait faillite et qui ont essayé un peu de décourager l'idée de l'épargne. Maintenant, il y a un suivi rapproché de la Banque centrale et donc nous voulons encourager les gens à avoir la culture.
Signalons que cette journée est consacrée à la sensibilisation de la population sur l'importance de l'épargne. Bounia, Nelly Kataka, Radio Okapi.
Et puis, au Nord Kivu, la vie renaît petit à petit à Samboko, un village du territoire de Beni. C'est en partie grâce à la collaboration entre le FRDC et la MONUSCO, mais aussi entre les populations locales et les forces de sécurité. Cependant, malgré la calmie qui règne dans cette région depuis plusieurs mois, les femmes éprouvent des difficultés pour leur autonomisation à cause de l'insécurité des groupes armés qui se sont repliés dans la périphérie du village, notamment des EDF. Les femmes ne peuvent s'y rendre dans la profondeur de la forêt pour leurs activités champêtres. Asifiu Ekaindo, la représentante de femmes locales, estime qu'apprendre de métier à ces femmes leur permettra de subvenir à leurs besoins. Elle l'a dit mardi au cours d'une mission d'évaluation de la situation sécuritaire dans la région. Asifiu Ekaindo est au micro de Guylaine Kassassia.
À cause de la sécurité qui a frappé notre village, les femmes n'ont pas d'occupation. Autre chose est que les femmes de ce village ne savent pas lire et écrire. Jusque-là, nous n'avons jamais eu d'ONG qui peuvent nous apprendre des petits métiers. Qu'elles pensent à nous aussi. Notre principale activité est l'agriculture, mais nous avons toujours peur d'aller dans nos champs en profondeur. C'est pourquoi certaines passent des journées sans rien faire. Mais si nous avons des ONG, ces femmes sont prêtes et capables d'apprendre tout métier comme le tissage de panier, cabinet, la coiffure ou la coupe et couture. Avant, nous avions un bureau, ce qui n'est plus le cas actuellement. Avant la guerre, nous avions déjà initié différentes associations de femmes, mais qui n'existent plus aujourd'hui car nous avions fui chacun dans sa direction. D'autres même ont péri lors de ces attaques. Ici, il y a plusieurs veuves, leurs maris ayant été tués par les rebelles. Voilà pourquoi il nous est nécessaire d'apprendre différents métiers, parce que même si on nous remet une enveloppe, elle ne nous servira à rien.
Actualité internationale.
Au Botswana, après 58 ans de règne sans partage, le Parti démocratique du Botswana, BDP, a perdu les pouvoirs. Mokgweetsi Masisi, le président sortant, a reconnu sa défaite ce vendredi avant même l'annonce officielle des résultats. Selon un décompte partiel, le Parti démocratique du Botswana, BDP, se retrouverait en quatrième position, n'obtenant que 3 sièges. En revanche, l'Umbrella for Democratic Change, principal parti d'opposition, devrait prendre le règne du pouvoir.
L'invité.
Dans la province de la Tchopo, les opérations d'indemnisation individuelle des victimes de la guerre des 6 jours se poursuivent sans désemparer. Bientôt, les Frivao font des réparations des indemnisations des victimes. Des activités illicites de l'Ouganda en RDC va se déployer dans les autres provinces démembrées de la Grande Orientale. Objectif, identifier les victimes et éventuellement leur indemnisation. Le coordonnateur intérimaire de cet établissement public l'a annoncé à Radio Capi au cours d'une interview exclusive qu'il lui a accordée mardi. Chansar Boloukola Osoni s'entretient avec Jacques Mokonkole.
Chansar Boloukola Osoni, bonjour.
Oui, bonjour.
Environ 2 mois après votre avènement à la tête de cet établissement public, combien de victimes sont déjà indemnisées et combien il en reste encore?
Ok, bien merci. Jusque là, nous avons déjà indemnisé 1843 victimes, mais de ce nombre, il y a 2150 qui ont déjà été envoyés à la RABANC.
Combien de victimes au total sont certifiées?
Bon, au total, nous avons trouvé 3163 victimes qui ont été certifiées parmi les lots de 14 818 victimes qui ont été identifiées par la coordination précédente.
Quelles procédures avez-vous mises en place pour identifier toutes ces victimes?
Aussitôt arrivé, nous avons mis en place une commission ad hoc qui était chargée de contrôler de façon physique d'abord toutes les victimes là qui ont été certifiées. Et en ces jours, nous sommes presque à la fin. C'est comme ça qu'au courant de la semaine, nous voulons déjà appeler les cadres de concertation pour monter une commission de certification de toutes ces victimes là, les 11 000 restants, pour cause des convocations, pour cause de prise en charge médicale. Et pour cela aussi, dans les dossiers nécessité des enquêtes ou encore les dossiers étaient écartés, nous sommes dit, nous allons mettre en place une commission pour essayer de statuer sur tous ces dossiers-là.
Monsieur le coordonnateur, les victimes certifiées reçoivent, depuis que vous êtes là, une enveloppe de 2 000 $ américains. Pourrait-il évoluer ou on va en rester là? Nous savons que l'Ouganda n'a pas encore apuré à son litige vis-à-vis de la RDC.
Ah oui, tout à fait. Je pense que je pèse mes mots. Le montant va s'améliorer. Mais si nous avons décidé de remonter à 2 000 $, c'était à la fois une demande des élites nationaux, mais aussi une demande des victimes elles-mêmes. Parce que autrefois, les victimes percevaient 300 $, 400 sur base des catégorisations. Mais la crainte, c'était qu'on ne connaissait pas encore le nombre exact de victimes. Alors, pour ne pas discréditer les autres, il était question de donner aux victimes une somme qui sera un peu à la hauteur de revenus que chaque victime pourrait mettre en place pour générer des activités. Et une fois que nous aurons le nombre exact de toutes les victimes, c'est-à-dire qui composent l'ex-province orientale démembrée, nous allons alors appliquer une clé de répartition pour essayer de catégoriser toujours les victimes en respectant bien sûr l'esprit de l'arrêt.
Oui, puisque vous parlez de l'espace Grande Orientale, à quand la descente dans ces milieux pour essayer de les identifier avant de leur donner aussi l'air dû?
Je pense que c'est dans un mois, parce que dans quelques semaines, nous aurons notre réunion de conseil d'administration. Nous avons déjà préparé notre plan de déploiement dans d'autres provinces. Et l'avantage, c'est que nous avons eu de pourparler avec le gouverneur de Bazouélé durant la visite du chef de l'État, monsieur le président de la République à Kisangani. Nous avons échangé avec le gouverneur de Bazouélé. Nous avons essayé de monter des études de faisabilité. Mais aussi, je crois, la semaine prochaine, déjà, nous allons avancer avec avec les pourparlers. Une fois que les administrateurs seront ici, après le conseil d'administration, chaque administrateur, parce qu'ils sont au nombre des trois, doit nécessairement piloter le plan de déploiement de chaque province.
À propos de l'indemnisation, il n'y a pas que des indemnisations individuelles en cours. Il y a aussi les indemnisations collectives. C'est dans ce cadre qu'il y a actuellement il y a un mausolée en construction. Est-ce que le FRIVAO a prévu autre chose à part le mausolée?
Ah oui, tout à fait, parce que nous avons trouvé des types de cahiers. Il y a un cahier des notabilités, c'est-à-dire les projets qui ont été proposés par les autorités tant provinciales qu'urbaines de la ville. Mais en même temps aussi, il y avait un cahier des charges proposé par l'association des victimes. Et que les mausolées, comme je l'ai dit tantôt, et je les redirai toujours, ça sera un acquis historique. Ça sera pour la première fois que la RDC se dotera d'un mémorial. Avant la fin de l'année, nous allons déjà commencer avec la construction d'un hôpital moderne parce que la ville de Kisangani...
Et dans ce cadre de l'indemnisation collective, les élus proposent que le FRIVAO puisse être mis à contribution une fois de plus, que le FRIVAO s'implique davantage pour résoudre durablement ces problèmes d'électricité dans la ville. Qu'en pensez-vous?
Moi, je pense que c'est aussi une solution parce que c'est près d'une décennie aujourd'hui qu'il n'y a plus de courant. Et aujourd'hui, je suppose que s'il y a l'électrification de la ville, les investisseurs viendront. Il y aura la promotion des usines d'entreprise. Mais je suis sûr et certain que le chef de l'État aussi posera un geste. Alors là, ça sera une mutualisation d'efforts parce que c'est ce qui nous préoccupe tous pour arriver à résoudre. Parce que parmi les projets alloués pour l'électrification, c'est aussi les désenclavements de cette.
Chanceur Boulukola Osoni, merci.
Et c'est la fin de ce journal. Alain Goy, la mise en onde sous la supervision et coordination de Alain Irung Mochinge et Jacques-Yves Molima. Patience Ngalou Lambombo était à la présentation. Merci à vous de l'avoir écouté.